Bonsoir, bienvenue dans Les Informés, votre débat d'actualité tous les soirs sur France Info. Et Les Informés ce soir s'appelle Maël Thierry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef adjoint du service politique de l'Obs. Bonsoir, Jeannick Halimi.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir, Frédéric Farah.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, chercheur et enseignant à l'université Panthéon-Sorbonne, l'université Paris 1. Et enfin, bonsoir, Xavier Denamur.
Bonsoir à tous.
Vous êtes restaurateur et au menu, justement, ce soir, les vacances d'Emmanuel Macron sont-elles vraiment si tranquilles que ça? En apparence, oui. Baignade dans la mer plutôt que dans la piscine, baignade dans la foule avec un médiatique bien calibré, calme, repos et soleil, mais dans le ciel, les nuages menaçants des affaires. Alexandre Benalla et Alexis Colère, faut-il vraiment laisser passer l'orage? On posera la question aux informés. En Argentine, le Sénat a dit non au droit à l'avortement, mais le sujet a profondément divisé le pays, on va en parler aussi. On évoquera également cette campagne d'information un peu maladroite, elle veut inciter les jeunes à mettre des préservatifs, en toutes circonstances, mais son ton est jugé moraliste. Et puis Donald Trump versus la Californie, tous les opposent, lui est climato-sceptique, elle est en pointe en termes écologie et aux premières loges du réchauffement climatique, lui est président, elle refuse d'appliquer certaines de ses mesures, lui veut faire la guerre des étoiles, elle veut lui retirer son étoile à Hollywood. Et si la Californie c'était la vraie opposition à Donald Trump, on verra ça à la fin de l'émission. Allez, c'est parti pour les informer. Il soigne particulièrement ses rares apparitions. Emmanuel Macron est en vacances depuis vendredi dernier au fort de Brégançon. Et après la rencontre avec Theresa May pour parler du Brexit, le président s'est simplement offert un petit bain de foule. Enfin, foule, il n'y avait pas non plus des milliers de personnes. Il y avait surtout pas mal de journalistes. La séquence a été parfaitement orchestrée. Une petite phrase sur la baignade. Il préfère, dit-il, la mer à la piscine. Et puis c'est tout. Pendant ce temps-là, à Paris, d'autres responsables politiques tentent de souffler sur les braises des feuilletons judiciaires de l'été. L'affaire Benalla, l'affaire Alexis Colère, avec cette nouvelle plainte déposée hier à l'encontre du bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le fondateur du parti Les Patriotes, Florian Philippot, a lui demandé des comptes ce matin sur France Info.
L'affaire Benalla a montré que tous ces discours, ces beaux discours sur le nouveau monde, la République exemplaire, les nouvelles pratiques, c'était du blabla. C'était bidon. On a vu un président qui a protégé de manière incompréhensible un individu et une bande, en réalité, qui avaient des avantages, eux aussi tout à fait incompréhensibles. Et on se dit, avec maintenant l'affaire Colère, qu'on a vraiment des mercenaires au pouvoir.
Florian Philippot du parti Les Patriotes ce matin sur France Info. Ni l'Élysée, ni Emmanuel Macron n'ont réagi d'ailleurs à ces nouvelles révélations de Mediapart lundi. Est-ce que c'est la bonne stratégie, Maël Thierry, pour le président?
En tout cas, c'est sa stratégie, ça. C'est sa stratégie depuis un an. Emmanuel Macron, il pense qu'il est le maître des horloges, il l'a dit, qu'il maîtrise le calendrier, le tempo, y compris médiatique. La différence, et c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Benalla, c'est que cette stratégie de communication, elle a ses limites. On a vu pendant plusieurs jours un silence à l'Élysée qui s'est répercuté dans toute la Macronie avec une forme de panique. Qui a montré justement que tout le système est extrêmement centralisé et organisé autour de sa personne et que quand il ne parle pas ou quand il n'y a pas un minimum de communication, tout le reste est un peu en panique.
Xavier Denamur.
Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est pas ce que Macron fait pendant ses vacances, c'est pas trop, même s'il fait un peu de com', bon, tous les présidents l'ont fait, Sarkozy l'a fait, etc. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu qu'est-ce que ça... En fait, les affaires d'avant, du temps de Hollande, on a eu l'affaire de notre ministre qui disait le droit dans les yeux, c'est, tout le monde va le reconnaître,
Cahuzac.
Monsieur Cahuzac, j'ai rien fait, donc on avait créé la haute autorité de la transparence. Et puis, on a eu Monsieur Thévenoud, et puis on a eu l'affaire Ferrand, puis on pourrait se dire, tiens, on a une sorte de filtre qui devrait marcher. Et là, on s'aperçoit que Monsieur Cochère, ça n'a pas marché.
Colère, pardon.
Je vais mettre en colère, effectivement. Colère. Donc, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il est passé à travers. Donc, on peut se poser la question. Est-ce que notre système, ce qu'on a mis en place, ne fonctionne pas? Et que, à nouveau, c'est une fois de plus les journalistes, une fois de plus les médias, que Monsieur Macron n'aime pas toujours, qui ont fait Mediapart ou Le Canard, qui vont sortir les affaires. Donc, on a quelque chose à réviser et que pendant les vacances de Monsieur Macron, ce qu'il devrait faire plutôt que de faire le cake devant les quelques personnes qui sont autour du château de Briançon, c'est de se poser la question et de dire, tiens, je suis un président, j'ai pas loupé des trucs, mais j'ai vraiment fait des erreurs. Et comment je corrige? Vous savez, vous aviez eu Blair qui avait dit, j'avais fait des erreurs, il a été réélu. S'il n'y a pas de no alternative, il y a peut-être une possibilité d'un président qui dit, je fais des erreurs et je vais corriger. J'ai fait des erreurs sur le CICE, je vais corriger. J'ai fait une erreur avec Benalla ou avec les gens que j'embauche, je vais corriger. Voilà ce qu'on attendrait peut-être de lui pendant les vacances.
Donc déçu plutôt qu'il ne parle pas. Frédéric Farah, quant à vous.
Moi, à la fin, avec ce genre d'affaires qui se multiplient, c'est le temps de la suspicion, parce que maintenant, on se dit, peut-être qu'il y en a encore une nouvelle qui va peut-être surgir. Maintenant, il y a cette idée que peut-être le pouvoir cacherait ou protégerait, comment dire, des proches. Alors, on se dit peut-être que demain, Mediapart, demain, le Canard Enchaîné va peut-être nous faire découvrir une nouvelle affaire. Et plus le silence de M. Macron dure, et plus ça nourrit peut-être cette idée qu'il cache des choses, ou que, en tout cas, la Macronie cache des choses. Donc, il est grand temps peut-être que le président de la République, effectivement, s'exprime assez clairement sur cette affaire, parce que, finalement, Nouveau Monde, Ancien Monde... C'est vrai qu'on a du mal un peu à faire le distinguo. Je suis d'accord avec vous que ces institutions, c'est pas très bien quelle est leur fonction à la fin.
Alors c'est surtout ces affaires, c'est pas une affaire, c'est plusieurs affaires.
C'est l'accumulation. Gianni Calimi, sur la stratégie.
Ce sont plusieurs affaires qui sont quand même différentes. Donc il faut tout de même se méfier de l'effet d'accumulation. Mais c'est vrai que ça porte une ombre à ce président qui se voulait au-dessus de tout soupçon de cette République irréprochable. Mais maintenant, il nous dit, lui, Édouard Philippe et les autres, que irréprochable ne veut pas dire infaillible à partir du moment où on corrige ses erreurs. Bon, sans rentrer dans les éléments des deux dossiers, Benalla, qui est particulièrement complexe, et Colère, qui est peut-être plus simple, mais bon, en tout cas, quoique,
je vois dominer,
plus simple à résumer, on va dire. Bon, voilà. Que voulais-je dire? Sur la façon dont Emmanuel Macron tente de gérer tout cela, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez, Maëlle, au début, il y a eu un silence qui a mis tout le monde mal à l'aise. On s'attendait effectivement à ce que Emmanuel Macron apporte, si ce n'est une justification ou des explications, en tout cas une clarification. Certains à l'époque disaient même des excuses, c'était peut-être aller très très vite en besogne. Il n'empêche qu'il ne l'a pas fait, et qu'au fur et à mesure où le temps passait, je me disais qu'il n'avait plus intérêt à parler. Voilà, on peut changer d'avis. Et la stratégie choisie par Emmanuel Macron, pour le moment, on peut en penser ce qu'elle veut, mais au moins, encore une fois, les premiers jours de panique, d'interrogation, de suspicion alimentée par les uns les autres ou subie par les uns les autres, et finalement assez simple et assez rationnel, c'est que il y a des commissions parlementaires administratives pour l'affaire Benalla, hein, et la justice qui se sont mises en place. Il faut laisser faire, et puis sur le fond, ils estiment toujours que c'est une affaire, pour Benalla en tout cas, une affaire individuelle, voire une affaire policière, mais que c'est certainement ni une affaire d'État,
donc une tempête ni dans un verre d'eau.
Oui, voilà, une tempête dans un verre d'eau.
On va poursuivre. Allez, on va poursuivre ce débat dans un instant parce qu'il est 20h10 et c'est l'essentiel de l'info avec Augustin Arrivé.
Des dégâts considérables dans le sud de la France après le passage d'une perturbation orageuse. Un septuagénaire allemand est porté disparu dans le Gard ce soir, emporté par la crue de la rivière Ardèche. Et des milliers de foyers privés d'électricité, 2000 en Dordogne, 7000 entre la Drôme et l'Ardèche. À Marseille, un risque de pollution du littoral oblige à fermer une quinzaine de plages. 6 départements restent en vigilance orange ce soir, des Hautes-Alpes aux Bouches-du-Rhône. La France accueillera une vingtaine de migrants parmi les 87 arrivés ce matin en Espagne, débarqués du bateau de l'ONG Proactiba. Beaucoup de Soudanais et de Sud-Soudanais qui ont fui la région du Darfour. 319 morts en Indonésie, dernier bilan du séisme de dimanche sur l'île de Lombok. Une réplique ce matin, la plus violente jusqu'ici, a agité Bali, magnitude 5,9. Il n'y a eu aucune victime française dans la catastrophe de ce week-end, mais 20 blessés, dont un est encore hospitalisé ce soir. Emmanuel Macron appellera demain Vladimir Poutine. Un coup de téléphone au sujet du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie. Son état de santé se dégrade, il est en grève de la faim depuis 3 mois. De nombreuses personnalités du cinéma réclament sa libération. La Russie promet des ripostes aux sanctions américaines annoncées hier et que le Kremlin juge inadmissibles. Sanctions économiques de la Maison-Blanche qui reproche à Moscou l'empoisonnement d'un ancien espion russe. C'était au mois de mars en Angleterre.
France Info. 20h, 21h, les informés. Aurélien Accard.
Et dans les informés ce soir, on parle des vacances pas si tranquilles de Monsieur Macron. Le président est au fort de Brégançon au cœur de ses 15 jours de repos. Une quiétude à peine troublée lundi par ce mystérieux drone qui a tenté de s'approcher, qui a été intercepté. Une enquête est ouverte. D'ailleurs, une quiétude pas plus troublée que ça non plus par ces nuages qui s'approchent du président. Un cumulo Benalla Limbus par-ci, un Alto Alexis Colère Cumulus par-là. Là aussi, des enquêtes sont ouvertes. Avis de gros temps sur la présidence Macron ou simple orage qui va rester dans les oubliettes de l'été. Maël Thierry,
ce qu'on peut déjà d'ores et déjà dire, c'est que l'affaire Benalla restera manifestement. Jusqu'à quel point aujourd'hui, c'est compliqué de le dire. L'enquête est encore en cours, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça porte quand même une ombre à une des promesses du candidat Macron, du président Macron, de ce nouveau monde qui allait rompre avec les pratiques anciennes, une forme de république exemplaire. C'est pour ça que quand il parle de tempête dans un verre d'eau, non, parce que ça touche précisément à des éléments sur lesquels il a été élu.
Je rebondis sur ce que disait Yannick Halimi, qui précisait que ça allait reprendre à la rentrée ces affaires. Est-ce que c'est la bonne stratégie, Frédéric Farah, finalement de garder le silence, notamment sur l'affaire Colère, parce que là, il n'a pas du tout parlé?
Je crois que, veut ou veut pas, il s'en tient à cette, si vous voulez, à cette position de ne pas parler, pour essayer peut-être que ça passe, si tant est que ça puisse passer. Je crois que, à la rentrée, si en plus, sur le front économique, les choses venaient à se dégrader, la croissance n'était pas attendue n'était pas au rendez-vous, je crois que, même si c'est peut-être convenu comme exercice, mais le président de la République devra s'adresser aux Français de manière directe et pas dans cette espèce de jeu de sous-entendus. Non pas pour se substituer à la justice si la justice doit être saisie, non pas faire le travail des enquêteurs et autres, mais au moins avoir un discours à peu près clair pour dire, bon, il nous a vendu cette République meilleure et exemplaire. Qu'est-ce que le président de la République a à dire sur ce qui se passe autour de lui? Et sans rentrer dans des détails peut-être trop importants, mais au moins s'exprimer là-dessus. Parce que je crois qu'effectivement, peut-être que demain, Mediapart, demain, peut-être le Canard Enchaîné va peut-être nous trouver une troisième affaire d'un collaborateur plus ou moins dans l'entourage de M. Macron qui se reliait encore à autre chose. Même si je suis tout à fait d'accord, les affaires sont très distinctes. Elles sont vraiment très distinctes. C'est pas les mêmes. Mais bon.
Est-ce qu'il peut compter sur un effet de lassitude aussi?
Peut-être un effet de lassitude, mais il faudrait qu'il y ait des bonnes nouvelles ailleurs, en fait. Il faudrait que économiquement ça se passe bien, que ces réformes continuent comme il souhaite, au rythme qu'il veut, qu'il n'y ait pas trop de contestation sociale, et peut-être que chemin faisant, ça l'aide.
Et dommage, la Coupe du Monde, c'était avant. Elle est déjà passée. Yannick Halimi.
Oui, c'est terrible ce qu'on vient de dire, parce qu'on dit tous qu'Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé. Et en fait, il s'est exprimé. Souvenez-vous, devant les élus La République En Marche, députés et sénateurs à la Maison de l'Amérique Latine, une semaine, je crois, après l'éclatement de l'affaire. Alors, c'était soi-disant des images volées, mais il ne faut pas être dupe.
L'affaire Benalla. Hein,
oui, je parle de l'affaire Benalla. L'affaire Colère, c'est encore autre chose. En tout cas, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, j'y viendrai peut-être tout à l'heure. Mais sur l'affaire Benalla, quand même, qui reste pour le moment l'élément le plus fort, puisqu'on a entendu tout et son contraire, mais on a surtout entendu tout, scandale d'État, police parallèle, clan, bande, sur l'affaire Colère, c'est grave, évidemment, si c'était démontré, mais ça reste des éléments, conflits d'intérêts. Enfin, malheureusement, on a déjà rencontré sous d'autres présidentes. Mais là, l'affaire Benalla est montrée très vite, très loin et très haut. Mais donc, juste pour terminer sur Emmanuel Macron, souvenez-vous, l'aspect « c'est moi qui suis responsable, de toute façon, qui viennent me chercher au-delà de la forme », c'était une façon pour lui, puisque tout le monde semblait demander sa parole, de politiser tout de même, en disant « c'est moi le président de la République qui suis responsable de tout ça », il politise. Il a vu que de toute façon, ça ne marchait pas, ça ne clarifiait pas le dossier, ça n'apaisait pas l'opinion publique et l'opposition. Et finalement, il a préféré se taire, juste quelques petites phrases comme ça, lorsqu'il s'était passé dans le Sud-Ouest. Là, ce qu'il veut faire, je pense, et une façon d'en sortir au-delà, vous aviez raison, monsieur, des bonnes nouvelles. Imaginons la courbe du chômage qui chute tout d'un coup, ce serait évidemment extraordinaire. Mais là, ce qu'il veut faire, qui est son discours, qui est aussi une façon de gérer la France depuis le début, c'est qu'il veut techniciser. Il ne veut pas en rajouter dans la politisation, bien sûr, et il va essayer d'en sortir, on en voit déjà les prélogomènes, par les solutions qu'il voudrait apporter. Mais des solutions quoi? Des solutions techniques, c'est-à-dire ce qu'on entend aujourd'hui, c'est il prend acte de quoi? Des dysfonctionnements qui s'est passé à la présidence de la République. Il ne parle plus de faute, de culpabilité, de responsabilité. Il va en sortir à la rentrée en nous présentant une nouvelle organisation, on ne va pas rentrer dans les détails, mais finalement assez technique de la présidence de la République en parlant plus de dysfonctionnement que de faute et de culpabilité. Donc c'est ça qu'il va essayer de faire, dépolitiser l'affaire, ce qu'il essaie déjà de faire, hein. La laisser judiciariser comme elle l'est aujourd'hui et essayer d'en sortir par le haut, par des réponses mi-techniques, mi-évidemment politiques. Et sur l'affaire Colère, je termine, je pense que son discours, alors là pour le coup, enfin sauf extraordinaire bien sûr, hein, une nouvelle révélation, etc. Je pense qu'il va faire ce qu'il a fait, notamment au début de son quinquennat l'année dernière avec les histoires de Richard Ferrand, enfin l'enquête préliminaire qui avait été ouverte, vous savez, Richard Ferrand. Donc,
qu'il y a eu aussi François Bayrou.
Et François Bayrou également avec les deux autres ministres MoDem, Madame de Sarnez, et puis voilà, et Sylvie Goulard. Il va pas parler, il va estimer que la justice doit faire son œuvre et il va attendre une mise en examen. Quoique pour Bayrou, Ferrand, Goulard et Madame de Sarnez, il n'a pas attendu la mise en examen. Vous savez, la fameuse jurisprudence Balladur, ils sont partis avant. Mais je pense que Emmanuel Macron, là, pour le coup, va attendre que la justice fasse son œuvre et qu'il y ait véritablement une décision, même une mise en examen, pour que Colère prenne une décision sur Alexis Colère.
Rapidement, justement, sur Alexis Colère, je vous pose la même question qu'on a posée déjà hier dans Les Informés, mais est-ce qu'il doit démissionner Alexis Colère, Xavier Denamur?
Alors moi, pour moi, oui, tout à fait, il devrait démissionner ou être viré. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que, et c'est encore une fois, il y a une erreur de casting au début, alors que je parlais tout à l'heure de ce problème de filtre qui n'a pas été fait, alors que c'est les journalistes qui sortent ça. Et moi, ce que ça raconte, encore une fois, ce que je dis, c'est que de ne pas reconnaître qu'on fait des erreurs, que ce soit avec dans l'affaire Benalla, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, il y a une erreur, non pas de casting, mais là, une erreur de RH au début, etc. Et c'est le secrétaire général de l'ISE qui dit s'en occupé, encore une fois c'est lui, et secrétaire général de l'Élysée, il faut que les auditeurs comprennent, c'est pas n'importe qui, c'est comme à l'Élysée tous décident, c'est le deuxième personnage de l'État dans ce pays, donc c'est quand même énorme, et je rappelle quand même que des présidents avant, ceux qui reconnaissent qu'on fait des erreurs malheureusement, comme Monsieur Hollande, enfin attendre qu'il soit plus élu pour l'écrire dans un livre, mais sinon à chaque fois, les présidents ça marche pas en France, comme Monsieur Sarkozy, qui avait dit ouais j'ai changé, mais ils reconnaissent pas leurs erreurs, et pour pouvoir avancer, et je dis pas que Macron va faire des mauvaises choses, il a beaucoup de choses, je dirais, dans sa besace pour amener le pays à changer. Mais si on ne reconnaît pas ses erreurs, on ne peut pas avancer. Et c'est ça, je pense, que les Français attendent. Et là, il ne l'a pas fait. Donc, du coup, il peut se traîner comme des boulets. L'affaire Benalla, l'affaire Colère et
oui,
d'autres encore.
Monsieur, vous pouvez entendre aussi qu'il faut que la justice fasse son œuvre et ne pas aboyer avec les loups.
Non, mais ce n'est pas une question de la justice.
Ah bah si, tout de même. Et attendre quand même, peut-être, qu'il y ait au moins une certitude ou une conviction de fait, et sur l'affaire Benalla et sur l'affaire Colère, avant de demander à l'un de démissionner et l'autre, remarquez,
l'autre a été licencié. Ça a pris trop de temps.
On va poursuivre encore un tout petit instant ce débat dans un instant. D'abord, 20h20, l'essentiel de l'info avec Augustin Arrivé.
Un Allemand de 70 ans porté disparu à Saint-Julien-de-Pérolas, c'est dans le Gard. Il s'était réfugié dans sa voiture emportée par les eaux en crue de la rivière Ardèche. Météo France a maintenu ce soir 6 départements du Sud-Est en vigilance orange aux orages. 10 000 foyers restés privés de courant cet après-midi entre la Drôme, l'Ardèche et la Dordogne. Une quinzaine de plages marseillaises sont interdites à la baignade à cause d'un risque de pollution des eaux. 5 tonnes de viande avariée saisies dans l'Oise, une plateforme de redistribution de Nogent sur Oise qui s'apprêtait à la livrer à plusieurs établissements de restauration rapide en Île-de-France. Saisie exceptionnelle de la répression des fraudes. La municipalité espagnole d'Algeciras demande des moyens supplémentaires pour assurer correctement l'arrivée des bateaux d'ONG dans son port. Ce matin, un navire a accosté avec 87 migrants à bord, des Soudanais et des Sud-Soudanais en grande majorité. Ils avaient été secourus au large de la Libye. Une vingtaine d'entre eux seront accueillis en France. Le président argentin promet quelques ajustements après le rejet ce matin par le Sénat du projet de loi sur l'avortement, principalement un renforcement des cours d'éducation sexuelle à l'école. Au Yémen, une attaque ce matin de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, elle a touché un bus dans le nord du pays. Le comité international de la Croix-Rouge évoque au moins 29 enfants tués et 48 blessés. La coalition en guerre visait des rebelles houthis. Elle l'accuse aujourd'hui d'utiliser ses enfants comme bouclier humain.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et les informés ce soir s'appellent Maël Thierry de l'Obs, Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, Frédéric Farah, économiste, chercheur et enseignant, et Xavier Denamur, restaurateur. Avant de clore ce débat sur les vacances d'Emmanuel Macron et les affaires, je termine avec la question que je posais déjà donc à Yannick Halimi. On aurait compris plutôt non hein, sur Alexis Kohler, doit-il démissionner?
Je dis qu'Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il prendra la décision de le licencier.
Xavier Denamur nous a dit que oui, il fallait qu'il parte. Et je pose donc la même question à Maël Thierry. Est-ce qu'Alexis Kohler doit démissionner?
Il y a une règle qui me paraît assez juste, hein, c'est celle de la démission en cas de mise en examen. Est-ce que les responsables politiques doivent démissionner quand ils sont mis en cause? L'actualité récente a montré qu'on pouvait en douter. Est-ce que Gérald Darmanin devait démissionner après les articles et les enquêtes qui ont été publié sur lui? Est-ce que Nicolas Hulot devait démissionner? Aujourd'hui, il est permis d'en douter. En tout cas, sur le fond de la justice, c'est prononcé.
Et la même question, du coup, avec Frédéric Farah.
Ben, je crois qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence Balladur. S'il est mis en examen, il doit s'en aller. Pour l'instant, c'est pas qu'il s'agit de douter de ce que produit Mediapart ou ce que le Canard Enchaîné pourrait produire. Mais attendons que la justice, effectivement, si elle le met en examen, bon, à ce moment-là, il faut s'en tenir à cette jurisprudence, parce que sinon, on va entrer dans des zones de plus en plus claires, de plus en plus floues, pardon. C'est-à-dire... Est-ce qu'ils sont plus ou moins comme ci, comme ça? Au moins, un acte judiciaire, c'est clair, il y a une mise en examen, ça dit la situation, bah, on s'en est tenu là, bah, à ce moment-là, il s'en va. Mais tant qu'il n'y a pas clairement une mise en examen, après, sinon, on rentre dans toutes sortes de soupçons, il suffit de dire n'importe quoi, peut-être sur quelqu'un, je ne dis pas que c'est n'importe quoi ce qui nous concerne, que tout de suite, on va dire, bah, il faut partir à ce jeu-là, bah, finalement, des questions politiques vont se régler par la rumeur, en fait.
L'affaire Cahuzac, par exemple, c'était pas vraiment une rumeur au début. Non. Il n'a pas démissionné, puis finalement, il est parti, mais il a fallu foutre quand même grave la pression. Moi, je pense que là, le problème de Monsieur Kohler,
la pression, c'était la justice.
Hein. Oui, mais c'est la pression. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est aussi les médias qui ont fait leur boulot, parce que la justice. Alors, mais encore une fois, juste pour conclure, c'est que Monsieur Kohler fait un aller-retour et dans la Macronie, je trouve ça bien. On demande des gens d'aller dans le privé, de revenir dans le public et tout. Mais enfin, quand on est dans le public et on fait de la courte échelle, parce qu'à mon avis c'est le cas, je pense que c'est pas tellement le bon modèle à montrer aux Français.
Et bon, on verra ça dans quelques semaines, puisque des enquêtes hein, sont ouvertes, des enquêtes judiciaires dans ces deux affaires, l'affaire Benalla et l'affaire Kohler. On passe à un tout autre sujet dans les informés. Ce soir, en Argentine, les sénateurs ont rejeté ce matin la légalisation de l'avortement par 38 voix contre 31, et le gouvernement argentin tout à l'heure a lui rejeté l'idée d'un référendum sur ce sujet qui divise le pays. Pour les pro-avortement, il faudra donc attendre 2 ans et l'élection d'un nouveau congrès pour espérer faire passer cette loi. Désillusion des manifestants au foulard vert qui ont passé 17 heures hier cette nuit devant le Sénat argentin pour réclamer l'adoption du projet de loi. C'est donc raté, mais ce n'est que partie remise, explique Ursula, une Argentine de 22 ans.
Il faut attendre le renouvellement du congrès dans 2 ans et ça passera. On a ouvert la voie et c'est ce qu'on attend toutes, c'est l'essentiel.
Allez, Ursula, manifestante pro-avortement dans les rues de Buenos Aires ce matin au micro France Info de Caroline Vic. Qu'est-ce qu'il emporte selon vous, la victoire à court terme du camp des anti-avortements, ou bien le fait que ce débat désormais existe durablement en Argentine, Yannick Halimi?
À entendre les personnalités, notamment féministes et féminines, enfin féminines et féministes qui sont exprimées à la suite du vote du Sénat, c'est plutôt le verre à moitié plein, puisque ces femmes parlent, encore une fois, malgré le vote négatif du Sénat, d'une dépénalisation sociale de l'avortement. Donc pour elles, ça prouve bien que l'opinion publique a changé. Il faut rappeler que la Chambre des députés l'avait voté et que le Sénat, qui est voté aussi, qui a un vote qui est moins représentatif, parce que c'est selon les régions, enfin les grandes villes, notamment les grandes métropoles, sont sous-représentées relativement que les campagnes et que les zones rurales. Donc rappelons quand même qu'il y a quand même une forte mobilisation politique et sociétale en faveur de l'avortement. Donc ces femmes-là estiment que c'est plutôt une victoire. Il n'empêche effectivement que ça n'est pas passé pour différentes raisons, notamment les pressions, les incitations de l'Église, de l'Épiscopat. On va en parler. Donc l'Épiscopat et également du pape, qui, rappelons-le, est argentin.
Maël Thierry, pareil, même question.
Oui, et une réponse assez proche. Effectivement, une défaite, certes, puisque la loi n'a pas été votée, mais en même temps, c'est ce qu'on entendait dans les témoignages des femmes, hein, c'est aussi une victoire. Manifestement, le sujet, c'est la première fois qu'il arrive au Parlement. Hein, il y avait déjà eu plusieurs tentatives, et jusqu'ici, ça n'avait jamais été mis comme ça en débat au Parlement. Il a été voté par les députés, il a été approuvé par les députés. On a vu aussi que la société civile s'est mise en mouvement, qu'elle s'est complètement emparé de ce sujet et que maintenant le sujet sera de toute façon dans l'agenda politique des années qui viennent.
Frédéric Farah.
Oui, je crois qu'on est juste à une étape d'un processus, c'est-à-dire même si sur le moment il y a de l'amertume dans la défaite, mais je crois que à terme c'est quelque chose qui va être gagné, obtenu. Bon, même si effectivement dans la région, dans ce continent-là, c'est pas quelque chose qui est encore très répandu, même si le voisin de l'Argentine, l'Uruguay, était un peu en avance sur cette question, puisque l'Uruguay, au contraire, a rendu effectivement possible et légal l'avortement. Mais je crois que la société argentine, qui est une société qui s'est énormément mobilisée, même par le passé pour d'autres causes, hein, par rapport à la dictature, c'est une société effectivement qui est capable de se mettre en route pour beaucoup de choses, elle l'a montré. Donc je crois que c'est une question de temps, même si je peux comprendre sur place les frustrations qui sont nombreuses et la déception.
Xavier de Namur.
Oui, moi, ce que je vois, c'est que l'Argentine, ça, en même temps, ce combat permanent que les femmes doivent avoir, parce que c'est pas un droit acquis, qu'il faut toujours revenir dessus pour la liberté, c'est un peu symbolique aussi de ce qui se passe sur tout ce subcontinent et même dans le monde. C'est-à-dire que faut savoir qu'au Brésil, par exemple, à côté, donc on s'est interdit, on a à peu près 1 million de personnes, de femmes, qui vont se faire avorter illégalement, et on a 200 000 femmes qui ont des problèmes, des conséquences de ça. Donc on a un vrai souci là. Et ce que je veux dire, c'est que même quand on pense qu'en France, c'est acquis, et ben on voit aussi ici que des fois vous allez sur le planning familial, etc., on retire de l'argent, donc dans le concret. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours, et on peut comprendre qu'on peut soutenir effectivement le combat de ces femmes à disposer de leur corps.
Et on va y revenir dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est la fin de la première partie des informés. On se retrouve dans 3 minutes.
Après la Russie, ils sont de retour à Marseille.
Oh, l'arrêt exceptionnel de Steve Mandanda.
À Lyon.
Nabil Fekir dans la surface. But de Nabil Fekir à la 74e minute.
À Paris.
Pas de hors-jeu pour Mbappé. Ça fait but.
Pas de week-end sans vos champions. Pas de week-end sans Beansport. Ce week-end, vivez la reprise de la Ligue 1 Conforama. Samedi, suivez le Multiligue 1 avec 5 matchs en direct. Et dimanche, ne manquez pas Olympique Lyonnais Amiens SC et Girondins de Bordeaux RC Strasbourg en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
La météo avec Sébastien Léas.
Les pluies et les orages s'évacuent cette nuit et les conditions s'améliorent peu à peu par l'ouest. Demain matin, quelques averses résiduelles se feront encore remarquer sur le nord-est, mais le ciel va s'éclaircir et l'après-midi sera sec. Le long de la Manche, la matinée verra aussi quelques averses circuler et ces averses seront plus nombreuses l'après-midi, prenant même localement un caractère orageux, notamment vers le Pas-de-Calais. Sur les Pyrénées, le ciel restera aussi nuageux, mais le risque d'averses est faible et cantonné à l'est de la chaîne. Partout ailleurs, la journée s'annonce calme, le soleil sera de retour sur le quart sud-est, gagnant jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté et à la Nouvelle-Aquitaine demain après-midi. Et sur le reste du pays, ce sont les éclaircies qui l'emporteront malgré un ciel parfois bien voilé. Les températures seront en hausse mais resteront souvent sous les normales de saison, variant entre 18 et 28 degrés. Les maximales seront plus estivales autour de la Méditerranée avec 28 à 33 degrés.
Sébastien Léas de Météo France, excellente soirée avec nous sur France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
. 20h30, l'info, Augustin arrivé.
7000 foyers sans courant entre la Drôme et l'Ardèche ce soir, plus de 2000 autres en Dordogne. Vague d'orage qui a ravagé le département du Gard avec une personne portée disparue, probablement emportée par la crue de la rivière Ardèche. Il s'agit d'un ressortissant allemand de 70 ans. 1800 foyers du département n'ont plus d'électricité. 6 départements sont maintenus en vigilance orange météo France aux orages ce soir dans le sud-est. Des Hautes-Alpes jusqu'aux Bouches-du-Rhône où une quinzaine de plages sont interdites à la baignade à Marseille, risque de pollution sur ce littoral. La tempête s'est également abattue sur la région Grand Est avec un phénomène de mini-tornade en Moselle, des toits d'immeubles envolés et 3700 foyers sans électricité. Les délibérations se poursuivent à San Francisco. Les 12 jurés californiens doivent déterminer la responsabilité ou non de l'herbicide Roundup dans le cancer incurable d'un jardinier de 46 ans. Premier procès civil du genre contre Monsanto, Grégory Phillips.
À 46 ans, ce père de deux enfants a tenu à témoigner devant le tribunal de San Francisco. Dwayne Johnson est malade et souffre depuis 2014 d'un cancer du système lymphatique. Ses médecins assurent qu'il n'a plus que 2 années à vivre, mais l'homme est combatif et raconte que pour la municipalité de Benicia, une petite ville de la baie de San Francisco, il était responsable de l'élimination des nuisibles et notamment des mauvaises herbes, et que pendant 2 années, de 2012 à 2014, il a quasi quotidiennement vaporisé des centaines de litres de désherbants dans les cours d'école, sur les terrains de sport ou dans les jardins de la ville. Johnson utilisait deux produits, le Roundup et sa version professionnelle, le Ranger Pro, tous les deux contenant du glyphosate. Aujourd'hui, l'ancien jardinier, malade, est soutenu par un cabinet d'avocats spécialisé dans les questions de santé publique. Il réclame 400 millions de dollars à Monsanto et promet de se battre jusqu'à son dernier souffle. Les avocats de Monsanto, eux, affirment qu'il n'y a aucun lien entre le glyphosate et le cancer de Dwayne Johnson. Washington, Grégory Phillips, France Info.
Le tribunal de grande instance de Paris a condamné aujourd'hui le réseau social Twitter à modifier ses conditions générales d'utilisation. Il ne pourra plus à l'avenir utiliser les messages et les photos de ses clients dans un but commercial, en tout cas pas sans leur accord. Twitter devra également verser 30 000 euros d'amende à l'UFC Que Choisir qui portait la plainte. Un rendez-vous téléphonique pendant ses vacances dans le Var. Emmanuel Macron parlera demain à Vladimir Poutine du cas Oleg Sentsov, un cinéaste ukrainien emprisonné en Russie. Son état de santé après 3 mois de grève de la faim, inquiète de nombreuses personnalités de l'art qui demandent sa libération. Le Kremlin qui prévoit une riposte, on ne sait pas encore de quelle nature, après la décision hier de la Maison-Blanche. Les États-Unis appliqueront avant la fin du mois de nouvelles sanctions économiques contre Moscou. Washington accuse la Russie d'être derrière l'empoisonnement en Angleterre d'un ancien agent double et de sa fille. Les championnats d'Europe multisport, le nageur français Mehdi Metella remporte l'argent sur le 100 mètres papillon. Et puis 77 minutes de jeu sur le terrain de Mariupol en Ukraine, rencontre de football, le 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. Le club ukrainien accueille les Girondins de Bordeaux. Ce sont les Girondins qui mènent au score 3 buts à 1. Aurélien Accard reprend les rênes des informés. La suite, il est 20h33 sur France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Les informés de France Info ce soir, Maëlle Thierry, chef adjoint du service politique de l'Obs, Jannick Halimi, rédactrice en chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France, le restaurateur Xavier de Namur et l'économiste, chercheur et enseignant Frédéric Farah. L'Argentine a donc dit non au droit à l'avortement. Enfin, plus précisément, 38 sénateurs argentins ont rejeté le projet de loi, 31 ont voté pour. C'est notre deuxième sujet ce soir dans les informés. Est-ce que le débat va se poursuivre dans la société argentine? Malgré ce rejet par le Sénat, les informés nous ont dit plutôt oui. Et l'autre question, c'est sur le poids de l'Église dans cette société argentine et du pape François, notamment, qui est argentin, je le rappelle. Il avait clairement pris position contre l'avortement dans ce débat. Est-ce que donc c'est une victoire pour l'Église, Jannick Halimi?
Alors quand on dit Église, il faut faire attention, parce que moi je suis frappée avec l'Argentine justement des couches, j'allais dire, tectoniques, politiques. Politico-culturel, je m'explique.
Oui,
c'est un peu compliqué,
là.
Mais ça va être très simple.
Il va falloir.
Oui, il va falloir. Bah, non, mais je vais y arriver. Là, on voit l'Argentine, effectivement, pays d'Amérique latine et premier continent catholique. Hein. 40% des catholiques dans le monde s'y trouvent en Amérique latine. Hein, je dis pas en Argentine, mais enfin donc avec un poids de l'Église, avec un pape dont vous parliez, et donc avec l'Argentine. Et mais ce n'est pas le seul. Hein, il y a que 3 pays qui ont libéralisé totalement, enfin l'avortement. Et donc avec cet exemple typique là dans l'actualité de l'Argentine qui refuse et qui rejette le droit à l'avortement. Pourquoi je parle de couches tectoniques géographique et culturel, c'est que il y a quelques mois, ça ne vous aura pas échappé, l'Irlande, qui est un pays extrêmement catholique, un des premiers pays catholiques au monde, en tout cas c'est ce qu'ils aiment dire, et où l'Église catholique aussi est extrêmement prégnante, eux ont accepté par référendum, maintenant il faut que ça passe par la loi, je ne suis pas sûre que ça soit fait, mais enfin ça c'est une procédure, ont accepté l'avortement, et il y a 2 ans ont accepté, ont voté, ont légalisé le mariage homosexuel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un pays où l'Église catholique est extrêmement forte, elle l'était encore il y a encore quelques temps, mais qui, ça ne vous aura pas échappé non plus, se trouve en Europe, et bien sûr avec la porosité culturelle d'un continent sécularisé, ouvert sur la liberté individuelle, le libre arbitre, etc. Et l'Amérique latine qui est éloignée de l'Europe et où l'Église a un poids d'autant plus important qu'elle s'est implantée politiquement et qu'elle a eu un rôle assez ambivalent parce que pendant longtemps, vous vous souvenez, dans les années 60-70, elle a été plutôt porteur, après le Vatican II, d'un catholicisme populaire qui a été ensuite...
dont se revendique un peu le pape d'ailleurs.
Dont se revendique le pape, oui et non, oui, vous avez raison, populaire, mais après est venu Jean-Paul II et qui n'a eu de cesse de combattre ce catholicisme des rues. Et du coup, dans les années 80-90 et après, s'est installé, s'est instauré plutôt la force de l'Opus Dei. Et donc là, on voit, vous voyez, deux types de cultures et de superstructures catholiques qui font qu'aujourd'hui, l'Amérique latine reste quand même extrêmement conservatrice dans ces domaines, alors que d'autres pays catholiques, encore une fois, comme l'Irlande, elle a pu s'ouvrir et se libéraliser.
Frédéric Vara, vu de France, qu'est-ce que ça dit de l'Argentine, que ça reste un pays très conservateur, comme le disait un peu Yannick Halimi, ou que c'est juste un pays en fait qui a un Sénat qui là-bas a le dernier mot, et comme le Sénat est souvent plus conservateur que l'autre assemblée, voilà, il se passe ça.
Je crois qu'il serait un petit peu rapide de dire que c'est un pays conservateur dans le sens que l'Église, même si elle est puissante, même si elle compte, d'en conclure qu'elle est forcément entièrement représentative d'une société qui, dans le fond, souhaite du changement et de la transformation, ce serait excessif d'aller dans ce sens. Je crois qu'effectivement, après, on ne porte pas, et c'est banal de le dire, la même histoire. L'histoire de la France avec son Église, c'est une histoire autrement différente et plus complexe que celle que l'Argentine peut avoir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité, mais c'est pas du tout la même trajectoire. Et donc, je crois pas, à partir d'une position qui est celle de l'Église, faire en conclure que toute la société argentine se range derrière ça.
Non, c'est ce que j'ai dit au début, pardon, mais c'est plutôt les pouvoirs, les élites. Et là, en termes de rapport de force et de lieu de pouvoir, là, effectivement, il y a quand même des idées extrêmement conservatrices qui expliquent en partie le vote de...
Bien sûr. Et d'où, effectivement...
Maël Thierry.
Oui, ça ressemble, enfin, une victoire, mais une victoire à court terme. D'abord, l'Église catholique, elle est concurrencée par les évangéliques qui ont aussi fait campagne, d'ailleurs, contre l'IVG en Argentine. Et puis, ce sont les élus qui ont décidé que le droit à l'IVG ne serait pas légalisé. C'est pas la population argentine. Ça a été dit tout à l'heure, mais je crois que le Sénat argentin, il représente pas équitablement, disons, la population argentine.
La réponse, on l'aura un peu plus précisément dans deux ans, aux prochaines élections.
En tout cas, on parlait de l'Irlande tout à l'heure. L'Irlande, c'est par référendum que l'IVG est légalisé.
Oui, c'est certainement aussi, d'ailleurs, par référendum, parce que je crois que la société argentine, moi, j'y suis allé en Argentine, elle est très moderne, très ouverte, et dans les villes, etc., on a beaucoup de jeunes, etc., ça bouge, c'est vraiment... Donc, il n'y a pas de raison qu'on...
Je crois que le mariage homosexuel est légalisé, d'ailleurs, en Argentine.
Oui, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Non, moi, ce que je conseille à l'Église, si elle veut se moderniser, c'est en Argentine comme ailleurs, mettez des distributeurs de capotes à côté de l'eau bénite. Ça sera peut-être un moyen de réfléchir sur la sexualité, sur le planning familial, des distributeurs de capotes dans les églises.
Xavier vous anticipez Denamur, notre
vous
champ
êtes,
débat.
Vous êtes parfait, vous me permettez de faire une transition vers notre prochain sujet de débat dans un instant dans Les Informés. Pour l'instant, il est 20h40 et c'est l'essentiel de l'info de ce jeudi soir avec Augustin Arrivé.
750 personnes évacuées aujourd'hui dans le Gard, un épisode d'orage et des dégâts considérables. 1800 foyers privés d'électricité ce soir dans le département. Les recherches sont interrompues pour la nuit pour tenter de retrouver un Allemand de 70 ans, probablement emporté par la crue de la rivière Ardèche. 2000 foyers n'ont plus de courant en Dordogne, 7000 entre la Drôme et l'Ardèche. À Marseille, un risque de pollution du littoral a obligé à fermer une quinzaine de plages. 6 départements restent ce soir en vigilance orange Météo France, des Hautes-Alpes aux Bouches-du-Rhône. La France accueillera une vingtaine de migrants parmi les 87 arrivés ce matin en Espagne. Tous débarqués du bateau de l'ONG Proactiva, beaucoup de Soudanais et de Sud-Soudanais qui ont fui la région du Darfour. 319 morts en Indonésie, le dernier bilan officiel du séisme de dimanche sur l'île de Lombok. Une réplique ce matin la plus violente jusqu'ici a été ressentie jusqu'à Bali, magnitude 5,9. Il n'y a eu aucune victime française dans la catastrophe de ce week-end, mais 20 blessés dont un est encore hospitalisé ce soir. Emmanuel Macron appellera demain Vladimir Poutine, un coup de téléphone au sujet du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie et dont l'état de santé se dégrade. Il est en grève de la faim depuis 3 mois. De nombreuses personnalités du cinéma réclament sa libération. Et puis la 3e médaille de la semaine pour Mehdi Metella en Écosse. Le Français remporte l'argent sur le 100 mètres papillon. Il s'agit des championnats d'Europe de natation.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Allez, troisième sujet ce soir dans les informés de France Info. Au départ, une bonne idée, une campagne du gouvernement en faveur du préservatif pour sensibiliser et faire reculer le sida. C'est l'agence ministérielle Santé publique France qui l'a lancé. Ça prend la forme notamment d'un site internet onsexprime.fr qui entend parler aux jeunes avec leurs codes. Les codes des réseaux sociaux et de l'humour. D'abord en mode, pourquoi faut-il toujours avoir un préservatif sur soi? Ça peut servir de gourde, nous dit la vidéo. Ça peut servir à faire du feu grâce au soleil et à l'effet loupe. Et oui, ils ont été chercher ça très loin. Et ça peut aussi servir un préservatif de chaussettes imperméables pour votre smartphone. Le tout, vous l'entendez avec cette petite musique qui va bien. Et puis ensuite arrivent, entre guillemets, les vraies raisons d'avoir toujours un préservatif sur soi. L'un des visuels pose problème parce que ça t'évitera d'annoncer à l'infirmière ou au médecin que tu as eu un rapport non protégé, une formulation qui a outré Aurélien Bocan, le président de l'association AIDS qui lutte contre le VIH.
On est face à des messages qui disent « mets un préservatif, ça t'évitera d'avoir des discussions désagréables avec ton médecin ou l'infirmière ou l'analyste », ce qui est complètement aberrant en 2018 aujourd'hui. C'est quoi le message derrière? C'est cachez-vous, surtout n'en parlez pas si vous avez un rapport non protégé. Ben alors là-dessus, c'est le meilleur moyen pour avoir une augmentation et une recrudescence de l'épidémie.
Et de nombreux infirmiers et médecins ont également dénoncé ce message. Est-ce qu'on peut parfois faire pire que mieux en voulant faire de la prévention, Xavier de Namur?
Alors, c'est sûr que c'est toujours un peu casse-gueule d'aller dans l'humour et d'essayer de se mettre de parler à une population, etc., sur des sujets qui sont quand même cruciaux, quoi, je veux dire, pour la santé des gens. Donc, effectivement, et c'est possible que le gouvernement laisse des fois des gourdes, quoi. Mais sinon, ça partait pas d'un mauvais sentiment. Je pense que, effectivement, on doit réviser. Alors, dans ces cas-là, il faut changer. On arrête la campagne et on en refait une autre. AIDS, ils sont très forts là-dessus. Ils auraient pu, d'ailleurs, je sais pas même pourquoi, sur ce coup-là, ils ont pas coordonné ou coopéré parce que AIDS est une grosse association qui sait exactement cibler, bien faire des campagnes pour sensibiliser les jeunes, effectivement, à cette problématique du sida. Effectivement, il faut le dire honnêtement, il faut se protéger et il faut pas avoir peur d'en parler si on s'est pas protégé. Et le nombre de jeunes gens, etc., qui aujourd'hui ne se protègent plus parce qu'on a de la trithérapie, etc., c'est un peu catastrophique. Donc il faut effectivement trouver d'autres solutions, peut-être un autre langage avec de l'humour, mais il faut savoir le maîtriser, sinon c'est casse-gueule grave.
Les associations qui parlent d'un slogan un peu moralisateur, Maël Thierry.
Oui, oui, ça se voulait sur le ton de l'humour, mais quand c'est pas compris à ce point, c'est que c'est raté. Moi, je regardais l'occasion de ce sujet un peu ce qui était fait en termes de campagne de prévention. Il y a des chiffres qui m'ont un peu frappé, c'est sur le manque d'information, le besoin d'information des jeunes qui étaient ciblés. Là, c'est les 15-24 ans. Ouais. Et les sondages qui ont été faits au moment du site d'action et qui disent que, je crois, pour un jeune sur 5, par exemple, on peut contracter le VIH. Si on embrasse un séropositif, qu'on peut ne pas contracter le VIH si on prend la pilule du lendemain. Enfin voilà, des choses qui sont quand même montrent qu'il y a encore besoin beaucoup d'informations sur ce sujet.
Effectivement, il y a près de 20% des jeunes selon ce sondage qui pensent que la pilule contraceptive protège du VIH. On rappelle que c'est faux. Frédéric Farah, elle est ratée cette campagne de communication.
Écoutez, moi ça me fait toujours un peu peur quand j'entends qu'on veut demander les services d'une une agence qui devrait parler comme un jeune ou qui devrait ressembler à un jeune. Alors là, c'est le début pour moi de la catastrophe, quoi, parce que
musique, c'est ça qui vous
la petite musique, ces représentations, et puis avec cette idée un peu condescendante en disant bon c'est bizarre, c'est un jeune, on va essayer de parler comme lui et tout, et finalement ça donne des trucs mais complètement ridicules parce que on a l'impression que on fait jeune. Donc je me poserai la question, moi ce qui m'intéresserait dans le fond c'est quelle est cette agence, qui a pensé ça, dans quelle mesure ça a été réfléchi et à quel moment ça a été validé où on a dit ah oui ça doit faire jeune, ça va leur parler. Qui a dit ça, je veux dire, ce serait intéressant si vous voulez faire une généalogie de comment on arrive là et ensuite que ça soit validé après, on dit ah ben ça a l'air vraiment super ce truc. Vraiment moi j'ai vraiment envie de me poser plus cette question là, de dire en amont qui fait quoi et qui a fait ça. Et là ce serait intéressant parce que tout là on disait qu'on fait des enquêtes pour savoir qui travaille pour l'Élysée ou autre, ou le gouvernement. Allons savoir qui est cette agence, qui a obtenu cette validation et à quel moment on dit parler le jeune. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, parler le jeune, ou faire le jeune, je sais pas.
Il n'y a pas encore d'enquête de justice qui a été ouverte.
Non, non, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est faire le jeune, ou être un jeune, enfin, je sais pas.
On vous expliquera.
Des...
Oui, non, mais je pense que faire de la com, quand on est une institution comme l'État, c'est très compliqué. Je me souviens d'une campagne sur la sécurité routière, qui, au contraire, était extrêmement brutale, où on voyait des morts, enfin, je sais pas si vous venez de ça, il y a 5, 6, 7, 8 ans, et où on avait fait des critiques, justement, à l'État, ou à l'agent agences de sécurité routière de montrer des images insupportables. Je pense, comme le disait Maëlle, qu'il y a au contraire énormément de choses à faire dans la pédagogie. Moi, je serais les pouvoirs publics, plutôt que d'essayer de faire de la publicité ou de la communication pour des affaires qui touchent à la vie, à la mort, hein, finalement, enfin, à la maladie qui peut déboucher malheureusement encore sur des morts. Je pense qu'il faut plus faire de l'information. D'ailleurs, au-delà de l'aspect politique avec un petit P sur le 80 km/h, c'est ce que fait plutôt bien. Peut-être qu'ils auraient dû le faire de façon plus systématique et plus en amont, la campagne d'explication du gouvernement sur voilà à quoi ça sert de diminuer la vitesse de 90 à 80 km/h. Bon, ça convainc ou ça convainc pas, mais au moins ça a la force, en tout cas la volonté et l'intention de l'argument, de l'explication. Et moi, sur des thèmes comme ça, hein, comme cela aussi grave, je ferais plutôt de la pédagogie que de la communication.
C'est-à-dire des messages au moins qui sont sérieux et qui peuvent être compris par tout
et
le monde.
Et utiles.
Oui, bien sûr.
Xavier Denamur.
Oui, pas trop de choses à rajouter. Je dirais que effectivement, on essaye quand même en France, contrairement, et je vous lance sur le sujet d'après, aux États-Unis, où on a des gens qui sont plutôt
vous allez un peu trop vite quand même.
Hein. Un peu ouvert.
Sur l'aspect qu'on évoquait justement sur ces sondages qui montrent que les jeunes finalement connaissent de moins en moins les réalités, comment on attrape le SIDA, le VIH, etc.
Oui, bah alors ça, il faut une campagne dans ces cas-là. Il faut une campagne pédagogique très claire et très simple. On ne va pas parler jeunes, on ne va pas être sur le côté un peu déconnant ou etc. On va vraiment faire une campagne très précise pour expliquer les choses, avec aussi essayer de trouver comment on peut faire à travers des spots ou des documentaires, etc. Pour attirer effectivement des sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Une population qui va pas forcément regarder des choses où elle s'informe. Donc comment on arrive à amener l'information juste à cette population qui est la plus, je dirais, qui doit être sensibilisée et touchée tout de suite, sans faire des tonnes. Donc comment on fait, c'est ça la question, c'est comment on trouve. Alors là, il faudrait peut-être une agence qui nous explique comment on va réussir à les faire écouter ou regarder
Je pense que je suis moins pessimiste claires. Que vous, parce que vu l'intérêt et les questions que se posent les jeunes, les post-ados ou les tout jeunes, je pense qu'effectivement, bon, faut trouver le bon canal, on est d'accord, il ne faut pas faire ça urbi et orbi, mais je pense que ce ne sera pas compliqué de faire venir ces gens-là si on leur donne de vraies informations.
Maëlle Thierry.
D'ailleurs, on parlait de sondages là, sur ces 15-24 ans, et de mémoire, ils exprimaient aussi le besoin d'une information sérieuse sur ces sujets-là, précisément pas d'un ton un peu rigolard, mais d'une information sur les questions de santé. En plus, cette campagne, elle est, de ce que j'en ai vu, elle est beaucoup plus axée sur la contraception, enfin le préservatif comme moyen de contraception, que sur les infections sexuellement transmissibles. Or, enfin, il me semble que c'est aussi un des volets sur lesquels, auprès des jeunes, le ministère devrait mettre l'accent.
Une campagne pour le préservatif qui risque donc de capoter pour une formule malheureuse. Et c'est un peu aussi comme ça que je vais conclure mon sujet, avec une formule malheureuse. On va passer dans un instant au dernier sujet de la soirée dans Les Informés. On va parler de Donald Trump, un habitué de l'émission. D'abord à 20h50, l'essentiel de l'info de ce jeudi soir avec Augustin Arrivé.
Les recherches interrompues pour la nuit à Saint-Julien-de-Pérolas dans le Gard. Un Allemand de 70 ans est porté disparu, probablement emporté par les eaux en crue de la rivière Ardèche. Météo France a maintenu ce soir 6 départements du sud-est en vigilance orange aux orages. 7000 foyers restent privés de courant entre la Drôme et l'Ardèche, 2000 autres en Dordogne, 1800 dans le Gard. 5 tonnes de viande avariée saisies dans l'Oise, une plateforme de redistribution de Nogent-sur-Oise qui s'apprêtait à la livrer à plusieurs établissements de restauration rapide en Île-de-France. Saisie exceptionnelle de la répression des fraudes. La municipalité espagnole d'Algeciras demande des moyens supplémentaires pour assurer correctement l'arrivée des bateaux d'ONG dans son port. Ce matin, un navire a accosté avec 87 migrants à bord, des Soudanais et des Sud-Soudanais en grande majorité. Ils avaient été secourus au large de la Libye. Une vingtaine d'entre eux seront accueillis en France. Au Yémen, une attaque ce matin de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Elle a touché un bus dans le nord du pays. Le comité international de la Croix-Rouge évoque au moins 29 enfants tués et 48 blessés. La coalition en guerre visait des rebelles houthis. Elle les accuse aujourd'hui d'utiliser ses enfants comme boucliers humains. Et puis la victoire à l'instant des Girondins de Bordeaux, 3-1 sur le terrain ukrainien du FC Mariupol. Match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa de football, score qui rassurera les Bordelais à la veille de la reprise du championnat de Ligue 1.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et on passe à notre dernier débat ce soir dans les informés avec un habitué de l'émission, Donald Trump, le président américain qui a toujours réponse à tout et toujours de grands projets. Le dernier en date, tout à l'heure, les États-Unis vont créer une force armée spatiale pour dominer l'espace. Ambiance donc guerre des étoiles. Et justement, en parlant d'étoiles, le conseil municipal de Hollywood à Los Angeles, en Californie, a décidé à l'unanimité le retrait de l'étoile de Donald Trump du fameux Walk of Fame, la promenade de la célébrité, là où, vous savez, sont disposées toutes les étoiles des acteurs. Alors, c'est évidemment un symbole, mais on pourrait aussi parler de la Californie qui a brusquement réagi il y a quelques jours quand Donald Trump veut alléger les contraintes anti-pollution des constructeurs automobiles. Stupide, répond l'État californien qui se dit prêt à tout pour éviter de mettre en place les décisions de Donald Trump dans un contexte où on ne voit pas de figure démocrate en train d'émerger face à lui, dans un contexte où Donald Trump reste relativement haut dans les sondages. Est-ce que finalement la vraie opposition à Trump, ce ne serait pas comme la Californie, c'est États américains qui refusent, qui rechignent à appliquer sa politique. Maëlle Thierry.
Oui, effectivement, on voit, c'est assez frappant, hein, dans le même pays, il peut y avoir effectivement la Californie, les propos des gouverneurs de Californie, d'ailleurs quels qu'ils soient, hein, tous démocrates et tous très écolos, progressistes. En même temps, je trouve que ce qu'on oublie parfois de rappeler sur Trump, c'est qu'il a été élu et que c'est pas un accident. Parfois, on a voulu lire son élection comme une forme d'accident ou d'incompréhension vue d'ici. Non, il répondait, s'il a été élu, c'est qu'il répondait aux attentes d'une partie, une grande partie sans doute des électeurs américains. Et d'ailleurs, son discours, il plaît manifestement, puisque quand on regarde ses courbes de popularité, elles sont assez hautes.
On a l'impression, en fait, aux États-Unis, que chacun reste dans son couloir, finalement. Il y a Donald Trump qui applique son programme et les États américains qui appliquent aussi le leur, Frédéric Farah.
C'est pas qu'ils appliquent forcément le leur, c'est que les façons, c'est le principe d'un État fédéral avec des compétences qui sont des États fédérés par rapport à l'État américain. De toutes les façons, la Californie peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a une constitution, les États ont un certain rôle, l'État fédéral en a un autre. Simplement, c'était une élection qui est extrêmement disputée. On l'avait vu aussi dans l'État de New York, on l'a vu en Californie, que Monsieur Trump est loin de faire l'unanimité. Cette élection en était l'expression. Donc, dans le fond, il y a une opposition qui va s'organiser peut-être à ce niveau. Et c'est vrai que les démocrates n'arrivent pas à faire émerger une nouvelle figure. Et je crois qu'il y a une vraie crise chez les démocrates. Et croire que simplement ils vont pouvoir prospérer sur les difficultés de Trump et que ça suffit et qu'il n'y a pas toute une interrogation sur comment les démocrates ont effectivement conduit leur politique économique, sociale et que les démocrates peuvent faire l'économie de ça, c'est à mon avis une erreur. C'est-à-dire que il faut pas juste attendre les déconvenues de Trump pour exister. Et donc effectivement, des oppositions peuvent se voir au niveau des différents États. Mais on va pas voir demain la Californie faire sécession ou l'État de New York.
Xavier de Namur.
Alors moi je crois pas. Je pense que effectivement la Californie, il faut rappeler quand même que c'est quasiment la sixième économie mondiale. C'est la Californie, c'est la Silicon Valley. On a effectivement des personnages. Alors on avait eu Schwarzenegger à un moment qui était gouverneur. Mais là ce qu'on a,
qui mâche pas ses mots d'ailleurs contre Donald Trump.
D'ailleurs contre Trump, mais ce qu'on a, c'est qu'on a un personnage qui va arriver, qui s'appelle Gary Newsom, qui est l'ancien maire de San Francisco, qui se présente comme gouverneur aux prochaines élections. Et voilà un personnage qui avait mis d'ailleurs contre l'État fédéral le mariage pour tous, enfin le mariage gay, qu'il avait fait, qui avait été d'ailleurs la Cour suprême lui avait donné raison. Quelqu'un qui défend l'environnement, etc. Donc on va avoir effectivement un État, la Californie, qui montre par une sorte de leader d'intelligence, etc., de montrer une autre manière d'amener les Américains vers autre chose. Et c'est ça qui sûrement va faire tomber Trump aux prochaines élections. Et parce que ça aurait sûrement, regardez bien, Gary Newsom qui va arriver.
Je vous vois lever les
c'est
yeux un peu au ciel.
C'est un restaurateur à la base. Hein. Il a des restaurants.
Ah, bien, voilà, c'est pour ça.
J'aime bien.
Voilà. Il a du bagou, il sait convaincre. Jannick Ali, par contre, n'a pas
que
là d'accord.
Les États, de par la structure fédérale des États-Unis, ont une véritable marge de manœuvre qui leur permet de ne pas suivre les mots d'ordre, si je puis dire, la politique nationale édictée par Donald Trump, c'est vrai. Deuxièmement, il n'y a pas que la Californie, premièrement, il y a d'autres États aussi qui ne sont pas du tout sur le registre mais de Donald Trump, qui sont peut-être effectivement moins puissants économiquement et démographiquement que la Californie. Mais il y a aussi des intérêts. Les fameux GAFA que l'on critique avec raison, pour différentes raisons. Enfin, voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais les GAFA qui sont empêtrés, eux, par les politiques, la volonté protectionniste de Donald Trump, et puis également philosophiquement beaucoup plus libéraux, pas seulement pour des intérêts économiques mais aussi essaie de faire entendre d'abord des discours différents et puis applique à l'intérieur même de leur boîte, ne serait-ce que de leur entreprise, ne serait-ce que, ne prenons qu'un exemple sur les règles et les normes écologiques, eux ils les appliquent enfin régulièrement. Moi ce qui m'étonne quand même, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que je pensais après l'élection de Donald Trump, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire qu'il s'est fait élire pour quelques centaines de milliers de voix, qu'il allait avoir une sorte de réaction, de résistance, tous azimuts. C'est plus compliqué, hein. D'abord parce qu'il n'y a pas que des raisons politiques et économiques, parce que c'est vrai que ça a été aussi le porte-voix de toutes ces régions défavorisées qui ont été touchées dès les années 70 en Amérique, hein, l'Oklahoma, la Pennsylvanie, etc. Et c'est vrai qu'il y a ces déshérités qui ont trouvé dans le discours protectionniste, notamment, et America First, économique des membres de Donald Trump, une raison d'espérer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à court terme, ça fonctionne. Mais il n'y a pas que ces raisons-là. Il y a aussi un fond de racisme blanc, il faut le dire, sur lequel joue Donald Trump quand il parle de l'America First. C'est aussi le white man American First qui fait qu'au-delà de toutes les éléments rationnels qu'il peut avoir, si le cycle économique se retourne et si le chômage ne baisse pas ou se remet à prendre aux États-Unis, il risque d'avoir tout de même ce vieux fond qui s'est révélé aussi après l'élection d'un président noir aux États-Unis qui peut expliquer ça. Et ce que je voulais dire, c'est que ça va être quand même extrêmement compliqué hors des temps électoraux, c'est-à-dire d'ici 3 ans et demi maintenant pour la prochaine présidentielle, pour les États-Unis d'avoir une autre majorité ou un autre président, puisqu'on parlait d'une procédure d'impeachment, c'est plus compliqué qu'on ne le pense.
Et on va devoir s'arrêter là, on aura l'occasion évidemment d'en reparler des États-Unis et de Donald Trump. C'est déjà la fin des informés pour ce soir. Merci à vous Maël Thierry, chef adjoint du service politique de l'Obs. C'est quoi la une de l'Obs ?
Cette semaine, on s'intéresse au couple de pouvoir et d'influence, avec notamment une enquête sur le couple Jamel Debbouze-Mélissa Theuriot.
Gianni Calimi du Parisien, la une du Parisien.
La une du Parisien, c'est la mise en pratique dans 2 hôpitaux français de 2 recherches américaines, enfin de 2 solutions contre le cancer de la lymphe et du sang. Donc c'est des données extrêmement optimistes
à lire demain dans Le Parisien et aujourd'hui en France. Merci aussi à Frédéric Farah et merci à Xavier Denamur. Nous, on se retrouve demain à 20h pour un nouveau numéro des Informés. Excellente soirée.